Alors, encore une fois, bonsoir à chacun. Merci de votre présence très appréciée. Comme introduction, je dirais en quelques mots que j'ai éventuellement changé le titre de la réunion. C'était les proverbes vécus. J'ai légèrement modifié. Je l'ai intitulé « Jésus » dans les proverbes, puisque, évidemment, celui qui avait vraiment vécu tout ce qui est dit dans les proverbes, ça ne pouvait être que lui. Mais j'aimerais autant le dire d'une façon plus précise. Je vous donnerai, pour ceux qui, que ça intéresse, cette, une feuille. Dans la méditation de ce qu'est le Seigneur dans les proverbes, j'ai dû me référer naturellement à grand nombre de versets. J'en ai cité à peu près 130 et quelques. Donc, on ne va pas ouvrir notre Bible chaque fois parce qu'on est ici, on y sera encore demain matin. Donc, les seuls versets que nous lirons ensemble sont dans le chapitre 8 du livre des Proverbes. Alors, vous savez déjà qu'en deuxième partie de la réunion, eh bien, nous nous référerons à ce chapitre 8 qui est tout à fait particulier lorsque l'on cherche le Seigneur dans l'Ancien Testament. Alors, le livre des Proverbes fait partie des saints livres poétiques qui se situent au milieu de la parole, et c'est l'œuvre de plusieurs auteurs, dont Salomon, Agur, Lémuel, et il a une structure, un style et des enseignements très variés, lesquels seront médités plutôt dans les prochaines réunions prévues sur ce sujet. Mais pour ce soir, j'ai désiré mettre deux versets comme prologue de tout ce qui suivra. Et je m'en vais les citer, vous les connaissez tous, donc pas besoin d'ouvrir vos Bibles. Le premier est Luc 24, verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qui leur gardent. C'est donc les paroles du Seigneur Jésus aux disciples qu'il accompagnait à Emmaüs, n'est-ce pas? Mais vous avez remarqué, toutes les Écritures, tout. Alors, on aimerait qu'il soit là pour nous dire qu'est-ce qu'il leur racontait de lui-même quand il a abordé le sujet des proverbes. Ça serait particulièrement intéressant. Et puis alors, le second verset, en prologue aussi, sont « Sondez les Écritures, car vous, vous estimez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Donc, si l'on veut apprendre, connaître quelque chose de nouveau sur le Seigneur Jésus, eh bien, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, c'est là. C'est ça qu'il faut ouvrir, c'est la Bible. Et ces deux versets, n'est-ce pas, qui sont cités, indiquent que l'exposé qui suivra ne sera ni un résumé, ni une étude, ni même un commentaire sur les proverbes. Puisque la parole nous dit « sondez les Écritures », eh bien, ça sera entre guillemets un sondage, si vous voulez, destiné à nous faire découvrir dans le livre les passages par lesquels l'Esprit de Christ dirige notre attention sur la personne du Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui dirige notre attention sur une personne. Et ça, bien avant même qu'il ne devienne chair, et qu'il ne donne aux différents versets qui seront cités un rayonnement tout à fait particulier que seul qui seuls lui appartiennent comme fils éternel bien-aimé. Beaucoup de versets nous parlent de personnes, on dit, ah voilà, ça c'est un type, ça c'est... Non. Il y a des versets, quand nous les considérons comme représentatifs du Seigneur dans telle ou telle occasion, ils prennent naturellement un relief tout à fait différent. Alors, parmi les caractères du Seigneur que l'on peut trouver particulièrement dans le livre des Proverbes, eh bien, Jean-Jacques en a déjà cité deux. On va le suivre. Le premier, c'est le juste. Alors, il y a trois versets, là, on en tête, que je vais vous citer. Le premier, c'est « Vos pères ont tué ceux qui ont prédit la venue du juste. » Et ça, pardon, c'est dans Acte 7, et c'est donc les paroles de Étienne, n'est-ce pas, avant d'être lapidé. C'est dans Acte 7. Ensuite, il y a un second verset. « Le Dieu de nos pères t'a choisi d'avance pour voir le juste. » Et chaque fois, donc, dans le premier comme dans le second, le juste est avec une majuscule, donc on ne peut pas se tromper. C'est le Seigneur, et ça, c'est des paroles que Paul cite lors de son apologie quand il a été pris à Jérusalem et qu'il parle, qu'il a demandé au centurion de bien vouloir le laisser parler. Et puis la troisième, c'est alors un passage de la première épître de Jean. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Donc, nous allons nous attarder un petit peu sur ce substantif le juste, qui, au singulier, parce qu'évidemment, il y a aussi les justes, ben, c'est un sujet à part, mais le juste, il est cité, d'après ce que j'ai pu voir dans la concordance, il est cité 119 fois dans la parole depuis la Genèse à la première épître de Jean, dont 41 fois dans le livre des Proverbes. Donc ça veut dire que le livre des Proverbes concentre un bon tiers de tout ce que la parole dit sur le juste. Il est évident que lorsque la parole évoque le juste, elle le fait... qui est celui qui s'abstient du mal dans sa vie pratique, Salomon oppose le caractère et le témoignage du juste à ceux de l'insensé ou du méchant. Ce sont les deux termes qu'il invoque en contraste avec le juste. Et s'il le fait ainsi, il stimule donc son fils, parce que vous savez bien que dans les Proverbes, c'est là qu'on trouve toujours l'expression « mon fils ». Et il y a une exhortation. Eh bien, il exhorte son fils à marcher, à choisir le sentier des justes, qui est comme la lumière resplendissante qui va croissant jusqu'à ce que le plein jour soit établi, contrairement au chemin des pécheurs, des méchants, qui est comme l'obscurité. Ça, c'est Proverbe 4, 8, 5. Tous ces passages, sont cités dans ce petit papier. Vous les trouverez. En découvrant dans ces versets se référant au juste plusieurs parallèles avec diverses circonstances qui rappellent des situations que le Seigneur a vécues, comme aussi certaines similitudes avec des caractères qu'il a parfaitement incarnés durant son ministère, on discerne là l'intention de l'Esprit de nous édifier en exaltant le caractère et les actes du juste parfait, le seul juste parmi les injustes. Ça, c'est une citation de 1 Pierre. Les versets 6, 7, 11, 16, 20, 21, 31, 32 du seul chapitre 10 auquel nous nous limiterons n'en sont qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. Mais vous avez vu, 10 fois, ou je ne me rappelle plus maintenant combien j'ai dit, seulement dans ce chapitre 10. Alors, dans ce chapitre 10, où l'on trouve tous ces versets, il y en a un qui est particulièrement important. C'est celui-ci. L'œuvre du juste est pour la vie. Donc, on peut estimer que ce verset pourrait assurément s'imposer à la fois comme le titre ou comme la conclusion d'une apologie du ministère du Seigneur. De même, l'Évangile présente le Fils unique comme la parole l'affirme, n'est-ce pas, en parlant de la vie, « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la vie a été manifestée. » Ça, c'est Jean 1, et puis 1 Jean, l'épître de 1 Jean. Ensuite, c'est lors de sa manifestation, à chaque pas, et en particulier par ses miracles, n'est-ce pas, la vie est la vie éternelle que le Seigneur fait jaillir à chaque pas. Quand il dit, ton fils vit, lève-toi, Lazare sort dehors, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que ce ne sont pas des accomplissements de la prophétie, car part de vers toi est la source de la vie. Il donne la vie, il produit la vie dans toutes ces circonstances. Alors déjà l'Esprit avait prophétiquement annoncé, en parlant de l'œuvre du Seigneur, qu'elle émanait du juste. Je vais citer le verset. Son œuvre est glorieuse et magnifique, et sa justice demeure à perpétuité. C'est le psaume 111. Déjà aussi, nous pouvons anticiper la vocation des saints du millénium, parce que là encore, il y figure comme juste, quand il est dit au psaume 22, « Ils viendront, donc les saints du millénium, ils viendront et raconteront sa justice à un peuple qui naîtra, qui a fait ces choses. » Or, si la vie, dans ce que nous avons vu dans ces versets, est le fruit des œuvres et des choses réalisées par le Seigneur, elle jaillit aussi comme conséquence de son ministère oral, ainsi que l'affirment les versets suivants. La bouche du juste est une fontaine de vie. Encore un autre verset de ce chapitre 10. La bouche du juste produit la sagesse. Alors, comme il ne peut naturellement pas en être autrement, en vertu de sa perfection, les paroles du Seigneur ne peuvent porter un autre caractère que ses œuvres, ainsi que lui-même l'affirme. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. C'est-à-dire que dans tous ces versets que nous trouvons dans les Proverbes, nous avons une confirmation écrite dans le Nouveau Testament. Et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir le prouver. Et il est évident que seul le Seigneur, par ses paroles, a engendré la vie et a produit la sagesse, comme aussi l'Évangile le confirme, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il dit ? Moi, je vous donnerai des paroles et une sagesse. Ça, c'est Luc 21. Et ce chapitre 10 des Proverbes, intarissable quant au juste et à sa justice, tient encore à nous parler des organes physiques qui produisent les paroles. La langue du juste est de l'argent choisi. De l'argent, bien, nous savons tous que c'est un symbole de la rédemption. Ça nous parle du rachat. N'est-ce pas ? Eh bien voilà. Corroboré par le verset 6 du psaume 12, Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent affiné dans le creuset de terre coulé cette fois. Oui, ces confirmations, les versets se confirment les uns les autres. Et c'est ça qui fait la valeur de ce témoignage. Et ensuite, on a parlé de la langue. Maintenant, les lèvres du juste en repaissent plusieurs. Les lèvres du juste savent ce qui est agréable. Tout ça, c'est le chapitre 10 des Proverbes. Conclusion, nous la trouvons dans le Nouveau Testament. Jamais homme ne parla comme cet homme. De plus, à titre de couronnement des œuvres et des choses, d'une part, et d'autre part, des paroles du Seigneur, deux versets de ce même chapitre, toujours dans le chapitre 10, annoncent l'accès à toutes sortes de bénédictions spirituelles dont nous sommes bénis, en Éphésiens 1, bénis dans les lieux célestes en Christ. Ce sont les versets 6 et 7 du chapitre 10. Il y a des bénédictions. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, et la mémoire du juste est en bénédiction. Ces versets sont d'ailleurs en harmonie avec Genèse 49. Les bénédictions de ton père seront sur la tête de Joseph et sur le sommet de la tête de qui ? De celui qui a été mis à part parmi ses frères. On sait bien que c'est une prophétie touchant le Seigneur, n'est-ce pas ? La prophétie de Joseph. Alors, je m'arrête là pour le chapitre 10 et tous ces versets, mais j'en ai, pour que vous aurez certainement du temps à la maison pour voir davantage, j'ai cité une vingtaine de versets, encore dans les Proverbes où il est parlé du juste, je les ai cités et en plus j'ai mis les références dans le Nouveau Testament pour que vous puissiez les lire. Alors maintenant, nous avons parlé du juste, eh bien nous allons parler du deuxième que Jean-Jacques a cité dans sa prière, le sage, puisque les Proverbes sont le livre de la sagesse. Le sage, un fils sage, le fils sage. Contrairement au titre du juste, n'est-ce pas ? Les expressions « sage » ou « le fils sage » ne sont pas les noms portés par le Seigneur. Mais ça n'exclut pas que parmi la quarantaine de versets où ils apparaissent dans le livre des Proverbes, plusieurs d'entre eux s'appliquent clairement au Seigneur et qu'il en ait réalisé les caractères d'une façon tout à fait claire sur la terre. C'est le cas particulier d'un verset que nous connaissons tous, qui est également dans Proverbe 10, « Un fils sage réjouit son père ». Mais de qui est-ce que ça peut être dit, sinon du Seigneur ? C'est extraordinaire ce que l'on retrouve quand on le cherche dans la parole. Et ce verset est répété au chapitre 15. L'importance de ce verset est mise en évidence par le fait que dans les divisions du livre des Proverbes, qui seront expliquées probablement dans les prochaines réunions, eh bien, on arrive au début du chapitre 9 avec, comme en tête, Proverbe de Salomon. Et quelle est la première parole des Proverbes de Salomon ? Eh bien, c'est ça. C'est ce verset. Un fils sage réjouit son père. Le fils, dans les Proverbes, est celui qui est engendré par la sagesse. Et il est en relation vitale avec l'Éternel. La sagesse étant une personne comme nous allons le voir dans ce chapitre 8 que j'ai mentionné au début de la réunion. S'il écoute son père, le fils sage le réjouit. Sinon, que dit la parole ? C'est un insensé, c'est un fils insensé. Alors, est-ce que nous n'avons pas, dans ces versets, l'anticipation de ce qu'annonce Ésaïe 42, quand il dit « Voici mon serviteur, voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui je trouve mon plaisir. » Alors, Dieu trouve son plaisir dans le Fils, il trouve son plaisir dans son élu, cité en Ésaïe 42. Ces versets des Proverbes et d'Ésaïe sont une annonce prophétique qui sera confirmée des siècles plus tard, n'est-ce pas ? Dans les évangiles, comme en 2 Pierre 1,17, que ce soit à l'occasion du baptême du Seigneur, en Matthieu, Marc, Luc, ou de sa transfiguration, n'est-ce pas, en Matthieu 17, et relaté, rappelé encore dans la deuxième épître de Pierre, eh bien, Dieu lui-même intervient dans ce qui est nommé dans l'épître de Pierre de la gloire magnifique pour que la divinité de son fils soit proclamée. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé tout mon plaisir. Voilà ce que dit Dieu. Ce n'est pas un homme qui le dit du Seigneur, c'est Dieu lui-même qui intervient pour que tout le monde le sache. De plus, Dieu tient à révéler publiquement l'absolue satisfaction, le plaisir qu'il éprouve comme témoin du ministère glorieux de son Fils, de son élu, de son serviteur, de son artisan. Ce sont 4 termes que nous retrouvons dans les Proverbes et qui désignent particulièrement le Seigneur Jésus. On le trouve en Ésaïe 42, on le trouve en Proverbe 8, verset 30. Enfin, on ne peut clore ce sujet sans le témoignage de l'Évangile selon Jean, présentant le Seigneur sous les traits du Fils de Dieu, où nous entendons le Fils unique et bien-aimé affirmer après la guérison de la femme adultère, « Moi, je fais toujours les choses qui lui plaisent. » Encore une fois, c'est lui qui le dit. Ce n'est pas un commentateur, ce n'est pas un apôtre Paul, ce n'est pas un Pierre. C'est lui qui le dit. « Moi, je fais toujours les choses qui lui plaisent. » Et cette allégation... La voix du Père lui répond. Et qu'est-ce qu'il dit, le Père ? Je l'ai glorifié et je le glorifierai de nouveau. C'est Jean 12. Ces versets de Jean sont l'accomplissement de la prophétie de Proverbe 23. Le Père du juste aura beaucoup de joie. C'est magnifique de retrouver ces versets de l'Ancien et du Nouveau, qui se confirment les uns les autres. Et celui qui a engendré le sage se réjouira en lui. On a des confirmations, non, on a des répétitions. Alors, que dire ? C'est la plénitude de la joie réciproque éprouvée tant par le Fils que par le Père. Le Père se réjouit de ce que fait son Fils. Son Fils se réjouit de faire la volonté. Alors là, j'ai de nouveau cité 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 versets de nouveau des proverbes qui parlent du sage avec leur confirmation dans les évangiles. Alors maintenant, nous avons eu le juste, nous avons eu le sage, je vais parler du nom du Fils. Et je vais citer un verset. Qui est monté dans les cieux et qui en est descendu? Qui a rassemblé le vent dans le creux de ses mains? Qui a serré les eaux dans son manteau? Qui a établi les bornes de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son Fils, si tu le sais? Ce verset est prononcé par Agur au chapitre 30 des Proverbes, et il est pratiquement analogue à ce que l'on trouve dans Job 38. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le-moi si tu as de l'intelligence. Vous voyez la similitude entre ces deux versets en parlant de la création. Et les deux fois, il y a cette petite parole ici. Quel est le nom de son Fils, si tu le sais? Quel est? Déclare-le-moi si tu as de l'intelligence. Mais c'est pour attirer notre attention, il ne pouvait pas. À ce moment-là où ces choses ont été dites, eh bien, il n'avait pas la possibilité de répondre. C'est nous qui pouvons le faire maintenant par la confirmation du Nouveau Testament. Malgré l'analogie qu'il y a entre le verset des Proverbes et celui de Job qui s'applique à la création, ce n'est qu'à la septième question d'Agur que nous allons nous référer, à celle qui concerne le Fils. Quel est le nom de son Fils? En premier lieu, il est remarquable que dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, où la notion du Fils n'existait pas comme elle existe dans le Nouveau et spécialement dans l'Évangile selon Jean, il est remarquable que Agur ne parle pas des fils, comme on l'a par exemple dans le livre de Job, des fils de Dieu, ou qu'il ne parle pas d'un fils. Non, non, il parle de son Fils. Alors ça suffit pour nous attirer l'attention, nous dire attention, il n'y a qu'un Fils, c'est le Fils unique, c'est son Fils. Il précise ainsi qu'il ne peut s'agir que d'un Fils unique, et cette précision nous dirige naturellement vers l'Évangile selon Jean, dont le Fils unique de Dieu est le thème par excellence. Il est par conséquent fondamental que ce soit le Seigneur lui-même qui s'attribue le titre de Fils en affirmant, attention parce que cette réponse est la réponse à la question d'Agur, personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du Fils, celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alors, en répondant à cette question, qui est monté dans les cieux, qui en est descendu, le Seigneur Jésus répond aux deux. J'en suis descendu. C'est le Fils de Dieu qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel, c'est Jean 3. Il le fait également dans un deuxième passage quand il dit « Personne ne vit jamais Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. » Ça c'est Jean 1, vous le savez. Alors, celui qui par ces deux versets répond à la première question d'Agur qui est montée dans les cieux, il le fait dans le Père. Ah oui, il le fait dans une seconde réponse quand il dit personne ne vit jamais Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Celui qui répond à la première question d'Agur sait ou a été révélé aux siens sous autant de caractères que. Alors là, c'est plus le Fils, simplement. Attention. Fils du Dieu vivant, Matthieu 16. Fils du Dieu très haut, Marc 5. Fils unique de Dieu, Jean 3. Fils bien-aimé, Marc 1. Fils de son amour, Colossiens 1. Le véritable, son Fils, 1 Jean 5. Et enfin, la révélation sublime au sujet de la relation d'amour entre le Père et le Fils. Je cite Jean 3 et Jean 5. Le Père aime le Fils. Et puis dans Jean 14, le Fils aime le Père. Alors, en parlant du sage, on a vu la plénitude de joie réciproque éprouvée autant par le Père que par le Fils. Eh bien, je conclurai cette partie réservée au nom du Fils, la plénitude de l'amour éprouvé autant par le Père que par le Fils. La relation du Père avec le Fils est une relation d'amour. Et c'est le Seigneur qui le dit. Maintenant, nous arrivons au point final de cette réunion. Christ, la sagesse de Dieu. Alors, évidemment, c'est la partie importante de cette révélation. Après avoir brièvement évoqué le Seigneur sous son caractère de juste, de sage, puis de Fils de Dieu, nous arrivons maintenant à l'un des sommets du livre des Proverbes où l'Esprit nous révèle le Fils sous son caractère de sagesse éternelle selon le texte de Proverbes 8, 22, 31. Alors, dans ce livre des Proverbes, n'est-ce pas, la sagesse crie au dehors, la sagesse ne crie-t-elle pas ? Écoutez, car je vous dirai des choses excellentes, dit la sagesse. C'est dans les Proverbes 1, 8 et 8. La sagesse abonde en exhortation dès le premier chapitre des Proverbes, jusqu'au verset 11 du chapitre 8, où il est dit « Recevez mon instruction ». D'ailleurs, maintenant qu'on est dans le chapitre 8, on peut bien ouvrir sa Bible. Alors, elle dit au verset 11 du chapitre 8, « Recevez mon instruction ». Et puis, elle dit ensuite, plus loin, elle explique pourquoi, « Car la sagesse est meilleure que les rubis et rien de ce qui fait nos délices ne l'égale. » Elle prend ensuite clairement le caractère d'une personne, voyez, quand elle dit « moi », la sagesse, elle s'identifie à une personne, n'est-ce pas ? Je demeure avec la prudence, elle agit, je trouve la connaissance qui vient de la réflexion. Et elle prend ce caractère de personne pour se définir elle-même. Et le dernier verset est bien clair. Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers du juste jugement pour faire hériter les biens réels à ceux qui m'aiment et pour remplir le trésor. Maintenant, dans les 9 versets suivants, c'est-à-dire du 22 au 31, on atteint pratiquement l'apogée du livre des Proverbes. Par l'enseignement relatif à la nature de la sagesse, présenté au cours de deux époques distinctes. La première, le verset 22 à 26, où on trouve cette parole qui revient incessamment, « Avant ses œuvres, avant les origines de la terre, quand il n'y avait pas d'abîme, qu'il n'y avait pas de source, avant les montagnes, avant les collines, tout ça, c'est une période. Ça définit une période. Et dans cette période, elle était là, la sagesse. Puis ensuite, alors il y a une seconde période, c'est depuis le verset 27 au verset 31, quand il disposait. Alors là, il y a une nouvelle action, c'est une nouvelle scène. Indépendamment de son essence spirituelle, la majesté et la solennité de ces 9 versets de ce texte sont d'une telle élévation que, simplement en les lisant, on se sent d'emblée introduit dans la révélation d'un mystère à la fois inconcevable, et je vais employer un mot qui ne figure plus dans les dictionnaires, il a disparu depuis une cinquantaine d'années, mais avant, il y était, incognoscible, c'est-à-dire qui est inaccessible à l'intelligence humaine. C'est ce que l'on va voir maintenant dans ces versets. Dépasse ce qui est concevable selon l'intelligence humaine. Si par analogie avec la continuité de certains faits qui se succèdent d'année en année depuis des millénaires, je prends les saisons, je prends les semailles, les moissons, l'homme peut arriver à se faire une idée de ce que sera ou pourrait être l'éternité. Ce serait la continuation de quelque chose que l'on connaît et qui jusqu'ici n'a pas été interrompu depuis des milliers d'années. Mais en revanche, essayez d'imaginer les sphères antérieures à la création et de dire avant la création, mais qu'est-ce qu'il y avait? On ne peut pas l'imaginer. Et la révélation que nous en donne la parole est très limitée et peut donner suite à des interprétations qui seraient injustifiées. Mais ce qu'elle tient à nous révéler, cette parole, c'est que dans cette époque inimaginable pour nous, le Seigneur était là. Ce n'était pas simplement Dieu, ce n'était pas simplement la Providence, c'était le Père et le Fils. Et nous, ça, nous le verrons. Je citerai les versets. Alors, il est bien clair que, grâce à l'éclairage du Nouveau Testament, et en particulier de ce que nous révèle l'Évangile selon Jean et le début de l'Épître aux Hébreux, c'est que tant la parole de Dieu que la sagesse de Dieu ne peuvent être personnifiées que par Dieu le Fils. Dieu le Fils, émanant de Dieu le Père, distinct du Père, tout en possédant intrinsèquement la nature du Père. C'est différent du Père, émanant de lui, mais ayant la même nature. Le Fils était présent dans cette éternité passée, et il était dans une intime relation avec le Père. Et là encore, c'est lui qui le dit. Ce n'est pas un quelconque auteur de la parole. C'est lui qui le dit lui-même, en parlant de lui-même et en parlant à Dieu lui-même. Que dit-il ? Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est-à-dire que tout ce que nous trouvons ici, dans ces versets 22 à 31, il y avait là derrière la présence du Fils. Nous allons lire ces versets. L'Éternel, chapitre 8, verset 22. L'Éternel m'a possédé au commencement de sa voix, avant ses œuvres d'ancienneté. Dès l'éternité, je fus établi, dès le commencement, dès avant les origines de la terre. Quand il n'y avait pas d'abîme, j'ai été enfanté. Quand il n'y avait pas de source pleine d'eau, avant que les montagnes fussent établies sur leur base, avant les collines, j'ai été enfanté lorsqu'ils n'avaient pas encore fait la terre et les campagnes et le commencement de la poussière du monde. Avant donc que se manifeste le premier indice de la puissance créatrice, que s'entreprenne la moindre action pour créer, entre autres, les abîmes qu'aucun homme n'a jamais pu mesurer, ou alors, ce qui est à l'opposé le plus insaisissable, le commencement de la poussière du monde. Le Fils unique a été enfanté, c'est-à-dire qu'il a été manifesté comme émanant de Dieu, avant quelque action que ce soit, c'est-à-dire dans ces versets 22 à 26. Là, il faut le voir, c'est la déclaration du Fils au Père. Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est alors que s'est vraisemblablement tenu le conseil auquel Ésaïe se réfère lorsqu'il évoque la création. C'est en Ésaïe 40, voilà ce que dit le prophète, « Qui a dirigé l'Esprit de l'Éternel ? Avec qui a-t-il tenu conscience ?» Conseil. Personne du temps de Salomon, comme du temps d'Ésaïe, ne pouvait répondre à cette question. Mais désormais, par l'Esprit de Dieu, révélateur des temps, comme nous l'avons en 1 Pierre 1, 11, nous pouvons le faire en ce qui concerne ceux qui furent présents lors de ce conseil. Et ces certitudes sont un puissant élément du fondement de notre salut et de notre foi. Mais n'est-ce pas, nous voyons, quand nous lisons dans Pierre, que l'agneau de Dieu a été préconnu dès avant la fondation du monde. Mais c'est là, on le trouve ici. Mais bien, nous l'avons vu ce matin, nous avons parlé de ces moments au culte, n'est-ce pas, où, avant toute chose, le Seigneur était établi pour l'exécution d'un programme qui était connu. Ce conseil, il a été tenu à cette époque-là. Dieu n'a pas attendu que l'homme pêche pour savoir ce qu'il ferait. Tout était préparé d'avance. Alors, maintenant que l'on sait qu'il était avec le Père avant ses œuvres d'ancienneté, n'est-ce pas ? Cet acte de présence est dûment établi, apparaissent alors, depuis les versets 27 à 31, apparaissent maintenant six phases distinctes de la création. Et nous allons le lire. Maintenant donc, fils, quand il disposait les cieux, alors là, c'est plus avant, c'est au moment où se créent les choses. Quand il disposait les cieux, j'étais là. Quand il ordonnait le cercle qui circonscrit la face de l'abîme, quand il établissait les nuées en haut, quand il affermissait les sources des abîmes, quand il imposait son décret à la mer afin que les eaux n'outrepassassent point son commandement, quand il décrétait les fondements de la terre, j'étais alors à côté de lui, son nourrisson ou son artisan. J'étais ses délices tous les jours, toujours en joie devant lui, me réjouissant en la partie habitable de sa terre, et mes délices étaient dans les fils des hommes. Voilà ce qui a marqué la création. C'est la période dans laquelle, selon Ecclésias 3, Dieu a fait toutes choses belles en son temps. On a ce verset qui résume en quelques paroles la création. Toutes choses belles en son temps. C'est durant cette époque que Dieu, que les spectateurs émerveillés de la puissance de Dieu étaient les étoiles du matin chantaient ensemble et tous les fils de Dieu éclataient de joie. C'est Job 38. Donc, il y a la création maintenant est centrée, n'est-ce pas? Et comme David, contemplant la splendeur de la création, nous faisons nôtre ces louanges. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Ça, c'est le verset premier du psaume 8. Et le verset 9, il est répété encore une fois. Cependant, aussi grandiose que soit le spectacle de la création, puisque les étoiles chantaient de joie, n'est-ce pas ? Aussi grandiose que soit ce spectacle, il n'est que le préambule à ce que l'Esprit veut mettre en évidence, à savoir ce que le Fils était alors pour Dieu le Père, et les sentiments que produisait en lui le déploiement de la puissance créatrice. C'est alors que l'artisan, que les versets suivants prennent toute leur signification, j'étais à côté de lui son nourrisson, son artisan, mais attention, ce faisant, j'étais ses délices tous les jours, toujours en joie devant lui, me réjouissant en la partie habitable de sa terre. C'est-à-dire que la parole ici ne désire pas simplement attirer notre attention sur la puissance créatrice de Dieu, sur les merveilles qu'il a faites, c'est sur les sentiments qui unissaient le Père et le Fils à ce moment. Et il est essentiel pour nous, pour notre vie spirituelle, de discerner ce que fut la communion entre le Père et son Fils dès la création du monde. Le Fils était une source parfaite de satisfaction pour le Père, et cela dans une inaltérable intimité, comme les expressions, vous les avez lues, tous les jours et toujours. Eh bien, ces expressions nous permettent d'exprimer, nous autorisent à affirmer que l'intimité était parfaite et que tout cela s'est fait dans la joie et dans une communion parfaite. Elle est aussi un profond sujet de joie pour celui, pour nous, n'est-ce pas, qui nous savons être l'objet de l'amour du Fils et du Père. Cet amour qui a existé entre le Père et le Fils c'est celui que nous connaissons aujourd'hui. Et si nous voulons reprendre ce que dit l'Évangile selon Jean, n'est-ce pas ? C'est voir, c'est entendre celui qui était auprès du Père et qui nous a été manifesté. Ça, c'est le premier chapitre de la première épître de Jean. Mais la révélation suprême de tout cela, c'est que l'Esprit nous livre les sentiments et les pensées que le Fils nourrissait dès la création, qu'il nourrissait quant au futur. Il nous est dit, il se réjouissait en la partie habitable de sa terre et ses délices étaient avec les fils des hommes. Alors, une fois de plus, les pensées du Fils sont en parfaite harmonie avec celles de son Père au sujet de la création telle que révélée dans les psaumes. La gloire de l'Éternel sera à toujours, l'Éternel se réjouira en ses œuvres. Donc Dieu, le Créateur, se réjouit en ses œuvres, et puis le Seigneur se réjouissait dans la partie habitable de sa terre. Une communion parfaite dans la joie. La terre, cette parcelle infime de l'univers, et ceux qui la peupleront retenaient l'intérêt du Fils. Ils en sont aimés et sont pour lui une source de joie. Je me réjouissais. Il faut bien peser tous ces mots. Lui qui, en d'autres livres de la parole, est présenté comme le Créateur, tel que en Jean, en Corinthiens, en Colossiens, n'est-ce pas, on voit, et puis surtout les premiers chapitres de l'Épître aux Hébreux, n'est-ce pas, qui est particulièrement explicite, n'est-ce pas, lorsqu'il nous est dit « Dieu a parlé dans le Fils, par lequel aussi il a fait les mondes, et il justifie ainsi son titre d'artisan ». Il a fait, il a créé, il était là. Donc, on le voit dans cette deuxième partie qui se réfère à la création elle-même. Unis par un amour insondable, le Père et le Fils partagent cet amour avec l'homme récemment créé et sa descendance, comme le Seigneur le rappelle à son Père avant la croix. Cet amour partagé avec l'homme. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ce ne sont pas ces termes, n'est-ce pas ? On parle de choses qui se passent entre le Père et le Fils. Mais elles sont dans la parole. Elles sont là, ces versets sont clairs. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Il n'y a pas moyen de ne pas comprendre. Aussi, rien n'altérera jamais cet amour. Pas même le péché. Pas même le péché. Il se manifestera en particulier lors de la conception du plan rédempteur quand fut préconnu l'agneau sans tache et sans défaut dès avant la fondation du monde. Vous voyez, tout s'imbrique, tout se confirme. Sous la grâce, l'amour du Fils sera manifesté lorsqu'il prendra un corps pour le livrer à la justice de Dieu en rémission de nos péchés. C'est la première manifestation concrète que nous puissions mesurer. C'est quand il prend ce corps. Et ça, encore, cela est clair, n'est-ce pas ? Le Fils de Dieu m'a aimé. Et qu'est-ce qu'il est allé ajouter ? Et s'est livré lui-même pour moi. Donc cet amour a été manifesté, prouvant ainsi que personne n'a un plus grand amour que celui-ci, qui laisse sa vie pour ses amis. Il l'a prouvé en Jean 15. À la grâce succédera le millénium. Après le temps de la grâce viendra le millénium. Et c'est quand Israël, invité à pousser des cris de joie et à se réjouir et à s'égayer, ça c'est Sophonie au chapitre 3 qui nous l'apprend, verra le Seigneur au milieu de lui. Et qu'est-ce qu'il fera dans ce temps-là? Il se reposera dans son amour. L'amour quand il s'incarne, l'amour qui nous suit chaque jour, l'amour pour l'économie qui suivra l'économie de la grâce. Et quant à l'éternité, eh bien c'est l'Apocalypse au chapitre 21 qui nous en donne un aperçu. Voici, l'habitation de Dieu est avec les hommes, est avec les hommes. Ça nous rappelle depuis quel moment, n'est-ce pas? Et il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Et Dieu essuiera toute forme de leur, toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine. Alors là, nous voyons, n'est-ce pas, dans cette habitation, je me réjouissais dans la partie habitable de sa terre, on la retrouve dans l'Apocalypse. C'est ce qui fait la beauté de cette révélation. Dieu habitant avec nous. Comme si, depuis cette révélation des Proverbes, rien ne s'était passé. Ça a été une parenthèse. Mais le développement magnifique que nous avons dans ce qui a précédé la création et qui a été réalisé par la création se retrouve intact. Tout péché étant banni, toute injustice ayant cessé, Dieu habite avec les hommes. Et quand Dieu, il est parlé de Dieu, c'est naturellement les trois personnes. Eh bien, on a eu un très très bref aperçu de certains passages où le Seigneur Jésus, le Fils bien-aimé du Père, brille d'une façon tout à fait particulière dans le livre des Proverbes. Et je pense que ces révélations où l'on voit une parfaite application de ces versets qui peuvent paraître, d'ailleurs Jean-Jacques l'a dit aussi dans sa prière, ça m'a appelé l'attention, oui, les Proverbes ne sont pas toujours très, très compréhensibles, n'est-ce pas ? Ils cachent quelquefois des significations qui ne sont pas visibles. Ben voilà, quand on le cherche, le Seigneur, même dans un livre comme les Proverbes, on le trouve. On le trouve, et alors, nous éprouvons très probablement, et vous l'éprouverez quand, si vous recherchez ensuite par la lecture beaucoup, beaucoup de choses que nous n'avons pas pu dire, limitées par le temps, eh bien, vous allez éprouver ce que certains deux disciples sur le chemin d'Emmaüs ont éprouvé. Ils l'ont résumé dans une très courte phrase. Notre cœur ne brûlait-il pas? Bien que ces quelques versets, très brièvement vus, de par le nombre, n'est-ce pas, il y en aurait bien d'autres. C'est très bref, mais combien cela nous encourage. Quand nous voyons ce que le Père et le Fils ont été pour l'homme et ce qu'ils veulent continuer d'être dans notre vie de chaque jour.